Bonjour et bienvenue dans la série des podcasts Educa sur la numérisation dans l'éducation. Je m'appelle Benjamin Folland. Dans cette série, nous parlons des principaux résultats de notre rapport « La numérisation dans l'éducation » et ce qui signifie pour la vie, l'enseignement et l'apprentissage dans nos écoles en Suisse. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec précaution un sujet plutôt délicat et pour de nombreuses raisons. Nous allons essayer de savoir comment la Suisse se situe par rapport aux autres pays en ce qui concerne la numérisation du système éducatif. Nous allons essayer d'expliquer quelles sont les conditions préalables et les obstacles à surmonter si l'on veut faire de telles comparaisons. Et nous allons nous demander ce que nous pouvons apprendre, en supposant que c'est possible, ce que nous pouvons apprendre de ces comparaisons ou des données à partir desquelles elles sont générées.
Educa, agent novateur.
L'un des grands défis de la comparaison internationale de la numérisation dans le système éducatif est que nous n'avons jusqu'à présent aucune vision commune de ce que l'on pourrait concrètement entendre par numérisation dans l'éducation. Les études qui se penchent sur la question au niveau national ou international commencent généralement toutes au même point, à savoir à partir de zéro. Concrètement, cela signifie que ces études doivent toutes plus ou moins définir ce qu'elles entendent par numérisation dans l'éducation. Petite digression, ces phénomènes ne concernent pas que l'éducation. Il y a un article un peu daté, mais toujours très intéressant, de Catherine Passig et Alex Scholz, intitulé « Bou, bouille et bits, pourquoi la numérisation n'existe pas ?» Les deux auteurs montrent très bien comment le terme « numérisation » a évolué au cours des 20 dernières années, de la description d'un processus plutôt concret, comme le passage des cartes analogiques à des cartes numériques, à sa signification actuelle plutôt vague et floue, où l'on peut parler de la numérisation dans l'éducation sans que l'on sache concrètement ce que cela signifie exactement et quels critères permettent d'affirmer que cet état est atteint. Il n'est donc peut-être pas surprenant de trouver sous l'étiquette « numérisation dans l'éducation » des études qui s'intéressent principalement à l'équipement technique des écoles en infrastructure informatique, mais aussi de recherches qui traitent des questions très, disons, fondamentales du changement de culture. Comment l'enseignement et l'apprentissage changent-ils, la relation entre les apprenantes et les enseignantes, ou l'importance du temps et de l'espace dans un monde où les technologies numériques permettent de nouvelles formes de collecte d'informations, de transmission d'informations et de la collaboration. En bref, les études qui traitent de la numérisation dans l'éducation signifient et soulignent souvent des choses très différentes. De plus, les différences entre les études ne se limitent pas à des définitions différentes. Même si différentes études estiment que des aspects similaires, des dimensions similaires sont pertinentes, ces aspects ne sont pas souvent mesurés de manière identique. Cela signifie, en fin de compte, qu'il est impossible de comparer les informations provenant de différentes études, qu'elles soient régionales ou nationales. Et je ne suis pas le seul à le dire. C'est l'une des principales conclusions d'un projet européen qui a tenté cette comparaison en 2017 et qui a échoué pour cette exacte raison. Pour pouvoir faire des comparaisons entre le système éducatif, on ne peut compter que sur des études qui ont été menées sur l'ensemble du système éducatif. Et il faut regarder de près ce qu'elles étudient concrètement. Le défi ici est double. D'une part, il n'y a pas beaucoup d'études de ce type. Et la Suisse ne participe pas à la plupart des études qui existent. Deuxièmement, les études auxquelles la Suisse participe ou a participé se concentrent souvent sur des aspects partiels, plutôt petits, du phénomène de la numérisation. La plupart du temps, il s'agit de choses faciles à mesurer, comme par exemple l'équipement des écoles en ordinateur. De plus, ces études suivent souvent des méthodes de mesure qui ne sont pas sans poser problème d'un point de vue méthodologique. Par exemple, en demandant aux élèves à quel point ils sont compétents dans l'utilisation des contenus et des dispositifs numériques. Cela se produit généralement parce que ces études ne sont pas spécifiquement axés sur la numérisation, mais font des comparaisons générales de systèmes éducatifs et les questions sur la numérisation sont prises au passage. Et tout cela ensemble limite fortement nos possibilités de faire des déclarations valides sur l'état de la numérisation dans le système éducatif en Suisse de manière générale, mais aussi en particulier l'état de la numérisation par rapport à d'autres systèmes éducatifs. Pour pouvoir faire de telles comparaisons, il faut donc disposer de données comparables provenant de plus d'un système éducatif. Et si l'on regarde ce qu'il y a comme sources existantes qui répondent à ces critères, on constate qu'il y a finalement deux grands types d'études comparatives qui fournissent des informations. Il y a d'abord les études politiques comparatives. Ce sont des études qui rassemblent des informations sur la mise en place et le fonctionnement des systèmes éducatifs. Une institution qui mène de telles études en Europe est par exemple EURIDIC, un réseau financé par l'UE. Et ils ont publié en septembre une grande étude sur l'enseignement de l'informatique. Et on peut y lire, entre autres, que la Suisse est l'un des rares pays d'Europe à prévoir des cours d'informatique autonomes et obligatoires dès l'école primaire. Ou que contrairement à la plupart des voisins, la Suisse ne dispose pas de matériel pédagogique spécifique mis à la disposition des enseignants d'informatique. Et là, on voit déjà le problème spécifique de ce type d'études comparatives. On y fait des déclarations sur le système éducatif suisse alors qu'il existe en fait 26 systèmes éducatifs et au moins 3 plans d'études sur l'informatique. Et l'étude ne montre pas à quel point ces 26 systèmes se distinguent les uns des autres. Nous ne savons donc pas quelle est la pertinence d'une valeur individuelle pour la Suisse dans son ensemble. Pire encore, ces défis similaires liés à la hétérogénéité interne se posent pour tous les systèmes organisés de manière fédérale, par exemple l'Allemagne. Mais à l'exception de la Belgique, cette étude ne donne qu'une seule valeur pour tous ces systèmes. Et cela rend extrêmement difficile d'évaluer les connaissances que l'on peut réellement tirer à partir des informations collectées. Et cela ne concerne malheureusement pas seulement cette étude spécifique. C'est un problème fondamental des études politiques comparatives et il est principalement lié à la méthodologie de ces études. En particulier parce que le nombre d'interlocuteurs interrogés par pays est très limité et que peu ou pas d'informations sont recueillies sur la variante possible, sur la dispersion possible, sur des différences éventuelles nationales. Une deuxième source d'information sur l'état de la numérisation est ce que l'on appelle les enquêtes d'évaluation à grande échelle. Ce sont des études qui visent à évaluer les compétences des élèves de manière standardisée. Le mot « standardisé » signifie ici qu'un groupe d'élèves similaires passe plus ou moins le même test dans des conditions similaires et à peu près au même moment. Si cela fonctionne bien, les résultats scolaires peuvent être évalués pour que les résultats soient comparables entre le système éducatif. Un exemple typique est l'enquête PISA. Comme leur nom l'indique, les études comparatives de performance s'intéressent aux performances académiques. En d'autres termes, quel est le niveau des élèves dans les matières scolaires telles que les mathématiques, la lecture ou les sciences? Et les informations sur l'utilisation des outils numériques ne sont intéressantes que dans la mesure où elles font partie du contexte dans lequel cette performance est réalisée. La quantité d'informations collectées dépend donc de l'importance accordée à ces outils par ceux qui conçoivent et mènent l'enquête. Par exemple, l'enquête PISA a un module supplémentaire spécifique au TIC depuis sa première édition en 2000. Les questionnaires de l'enquête sur les compétences des bases ou COFO, alors l'alternative nationale de PISA en Suisse, ces questionnaires interrogent également les élèves participantes sur leur utilisation, leur intérêt et leurs compétences en matière d'informatique. Et sur la base de ces informations, il est possible de faire quelques constatations comparatives. Par exemple, on a longtemps observé que les écoles suisses étaient mieux équipées en ordinateurs et d'autres dispositifs que la moyenne des pays de l'OCDE. Ce n'est plus le cas. Les derniers chiffres disponibles de l'enquête PISA de 2018 montrent que l'équipement des écoles en Suisse est inférieur à la moyenne de l'OCDE. En même temps, le chiffre montre que les différences d'équipement entre les écoles en Suisse ont fortement augmenté au fil du temps. Il y a donc, du moins jusqu'en 2018, une inégalité croissante entre les écoles. Les chiffres de PISA indiquent également que les élèves en Suisse utilisent rarement les ordinateurs ou les tablettes pour apprendre, en comparaison avec les autres pays de l'OCDE, aussi bien lors des cours qu'à la maison. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il existe un Rechtigraben assez net en Suisse. En d'autres termes, les élèves de Suisse latine utilisent nettement moins souvent le terminal numérique eux-mêmes en classe que les élèves des Suisses alémaniques. En Suisse latine, ce sont plutôt les enseignantes qui utilisent les appareils. Cela ne vaut pas seulement entre les cantons, on peut l'observer aussi pour les parties régionales linguistiques de cantons bilingues de Berne, Fribourg et Valais. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est un phénomène intéressant et relativement stable dans le temps. Nous l'observons donc en 2016 dans l'enquête COFO, ainsi qu'en 2021 dans une enquête du CSRE. Nous n'avons pas fait le tour de tous les classements possibles, mais un domaine dans lequel la Suisse est en tête de données PISA 2018 est la différence entre les garçons et les filles en termes des compétences numériques auto-évaluées et d'intérêt pour les technologies numériques. Dans peu de pays, notamment en Allemagne, ces différences sont plus marquées qu'en Suisse. Les compétences auto-évaluées sont une très, très mauvaise mesure des compétences réelles, mais elles peuvent être pertinentes pour le choix futur d'une profession ou d'une matière. Si je n'ai pas de confiance en moi pour faire quelque chose, je ne le ferai pas, peu importe mes compétences réelles. Il n'est donc peut-être pas surprenant que le rapport homme-femme dans le filière IT en Suisse soit également nettement supérieur à la moyenne de l'OCDE depuis des années. Il y a donc une corrélation là.
Educa, agent novateur.
Ce que tous ces exemples montrent en fin de compte, c'est que nous pouvons généralement faire des déclarations comparatives largement valides pour certains faits. Valides parce que ces déclarations se basent sur des grandes enquêtes bien testées et représentatives. Généralement seulement parce que toutes les informations sont autodéclaratives et que malgré toutes les précautions et les tests, les traductions d'une langue à l'autre peuvent conduire à des erreurs systématiques. Ce que les exemples montrent aussi clairement dans leur magnifique éclectisme, c'est que nous sommes loin de pouvoir décrire de manière exhaustive un phénomène aussi complexe que la transformation numérique. Nous n'avons pas d'informations sur de nombreuses questions tout aussi pertinentes. Par exemple, il serait plus important de savoir comment les ordinateurs sont utilisés en classe que de savoir à quelle fréquence ils sont utilisés. Ce que nous ne pouvons pas non plus déduire de ces comparaisons, c'est pourquoi il existe des différences observables. Nous ne pouvons pas expliquer, par exemple, pourquoi en Irlande ou en Italie, la différence entre les garçons et les filles dans l'auto-évaluation des compétences numériques ne représente qu'un peu plus d'un tiers de la différence en Suisse. On ne peut que spéculer sur le fait que cela soit lié à des mesures spécifiques prises dans les deux pays. Les données ne me permettent pas de l'affirmer. Ce que l'on peut dire, c'est que la raison pour laquelle la différence est moindre dans les deux pays est différente. En Italie, les garçons s'estiment nettement plus faibles qu'en Suisse, alors que les filles s'estiment à peu près aussi bonnes. En Irlande, les filles s'estiment nettement meilleures que les filles en Suisse, les garçons sont à peu près aussi bonnes que les garçons suisses. Si l'on pense que cela pourrait être dû à des mesures spécifiques, alors les données suggèrent de regarder plutôt vers l'Irlande que vers l'Italie. Mais est-ce que nous devrions le faire ? La différence observable est-elle un problème ? La réponse à ces questions ne se trouve non plus dans les données. C'est en fin de compte une question politique, et il est important de garder cela à l'esprit. Le fait qu'un système éducatif soit classé haut ou bas ou au milieu n'a en soi aucune signification normative. L'importance de ces résultats repose sur la valorisation sociale du phénomène observé. Si nous pensons que les garçons et les filles ont ou pourraient avoir un intérêt similaire pour les technologies numériques, si nous sommes convaincus que l'école devrait encourager le développement de cet intérêt indépendamment du sexe, alors l'information sur les différences existantes pourrait être précieuse. Car cela montre qu'il y a un problème, qu'il y a un potentiel d'amélioration, compte tenu de nos valeurs. Et c'est finalement la grande force d'enquêtes descriptives comme PISA ou COFO. Elles fournissent des indicateurs importants sur la qualité, le problème et les potentiels d'amélioration du système éducatif. Elles aident donc le système éducatif à identifier les possibilités d'amélioration. Idéalement, elles permettent aussi de se rapprocher de la question de savoir pourquoi il existe des différences entre le système éducatif et elles aident ainsi le système éducatif à apprendre les uns des autres. D'ailleurs, Ces études comparatives pourraient également être utilisées pour soutenir le développement des écoles. Par exemple, en identifiant les écoles qui semblent particulièrement bien réussir à intégrer les outils numériques dans l'enseignement. Celles qui ont à la fois une forte intensité d'utilisation et des bons résultats scolaires. Mais pour cela, il faudrait examiner ces écoles de plus près après une telle étude. Et actuellement, ce n'est pas possible. Identifier les écoles après coup est par exemple interdit dans les enquêtes COFO. Cela signifie que nous nous privons actuellement des possibilités considérables d'apprendre davantage à partir de ces données à un niveau autre que seulement, entre guillemets, au niveau systémique. Résumons. Actuellement, nous pouvons dire relativement peu de choses sur l'état de la numérisation dans le système éducatif suisse. Et surtout pas en comparaison avec d'autres systèmes éducatifs. Il n'y a pas de définition commune, les concepts et mesures existantes sont souvent douteux et les données manquent souvent. Mais si l'on collecte les données, si l'on participe à des enquêtes internationales, on peut vraiment obtenir des informations précieuses et on pourrait utiliser les bases de données existantes de manière plus intensive et surtout plus créative. Nous serons aussi plus créatifs dans les prochains épisodes de la série de podcasts. Nous essaierons de découvrir ce qui fait une bonne étude et comment la reconnaître. D'ici là, merci pour votre écoute.
Educa, agent novateur.